Alors on a dit, ah ben c'est la parole. C'est la parole parce que l'homme parle, et puis les animaux ne parlent pas. Pourquoi c'est pas vrai? On sait qu'il y a des animaux qui parlent. Le ménage, le perroquet. Mais surtout, cela, peut-être pas tellement, ils imitent l'homme, hein. Mais les animaux parlent profondément, les oiseaux parlent. Il faut vraiment, hein, pas avoir beaucoup fréquenté les oiseaux pour dire qu'ils ne parlent pas. Non seulement ils parlent, mais on leur répond, ils vous répondent. La vache parle. Moi, je rencontre jamais un troupeau de vaches chez moi sans dire bonjour, mon vache. Et puis, je m'en vais, je m'éloigne, et il répète pour me dire, ah ben, tu l'as fait qu'une fois, moi, je te dis deux fois. Et puis, le chien, ben, les chiens, j'ai parlé avec les chiens. Avec mon Tintin, qui est mort à 17 ans, je parlais des centaines de fois. Je lui parlais presque comme à vous. Et j'étais même plus sûr d'être compris. Non, il est évident que les animaux parlent. Ils pépillent, ils clapissent, ils hennissent, ils ruminent, mais ils parlent. Donc, c'est pas la différence. Alors, on dit c'est l'abstraction. L'homme sait abstraire et l'animal ne sait pas. Hein? L'animal prend ce qui est là, évidemment, il se défend si on l'attaque, mais il ne peut pas concevoir la notion de péril ou la notion de nourriture si ce n'est pas là devant lui. Alors que l'homme peut se souvenir de ce qu'il a fait hier, il peut espérer ce qui se passera demain, il vit donc dans l'abstraction de ce qui n'est pas là. Et qu'il appellera le péril, qu'il appellera la nourriture, qu'il appellera le bonheur, etc. Et là, c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Aujourd'hui, et grâce à Laurence et d'autres, on sait très bien combien l'animal est capable d'abstraction. Pas tous les animaux, mais un animal dans la tribu, un animal dans la compagnie d'oiseaux, un animal dans le complexe d'amibe, il possède une faculté d'abstraction. C'est-à-dire que quand le troupeau est affamé, le chef va emmener le troupeau où il y a de l'eau. Donc il est abstrait, cette eau, puisqu'elle n'est pas là et qu'il sait où ça se trouve ailleurs. Quand en Provence, on l'a vu avec les derniers, enfin, notamment la catastrophe de Fréjus, la destruction de la rue de Fréjus. Eh bien, tous les moutons des troupeaux, ils sont foutus le camp. Ils sont foutus le camp une heure avant, comme on sait pas. Donc, ils avaient pressenti le péril à venir qui n'était pas là. C'est le berger qui marchait derrière, qui lui a été noyé souvent. L'animal prévoit les choses, il se souvient des choses. Donc il est abstrait. Mais on dira la différence, c'est que chez l'animal, quand il vous dit il y en a un sur 100, un deux, sur 1000, un habib sur des millions. Et c'est pas vrai, les autres se contentent de suivre. On ne se contente. Si vous voyez les fourmis faire un pont, c'est quelque chose de passionnant, un pont au-dessus d'un fossé. Il y aurait toujours quelques fourmis qui ne seront pas des soldats, qui ne seront pas des ouvrières, et qui seront là, qui tourneront autour, qui se baladeront, elles guettent, elles attendent, elles veulent voir, elles veulent pressentir, et elles sont là pour avertir la compagnie de fourmis. La différence, c'est que le troupeau, ou la compagnie, ou l'assemblée, écoute le chef, écoute le guide, écoute celui qui peut abstraire. L'abstracteur a vraiment une fonction qui est de sauver la compagnie. Vous savez, des amibes, c'est des petites cellules agglomérées. Eh bien, de temps en temps, il y en a un qui s'en va, qui sort, et qui se balade tout seul. Et il pousse un cri, à un certain moment. Il y a un crissement. Et on a remarqué que ça voulait dire, attention, nous allons avoir faim. Vous allez mourir de faim si nous ne faisons pas quelque chose. Et après ce cri du veilleur, nous voyons l'agglomérat s'étendre, se disperser avec des pseudopodes et s'étendent jusqu'à découvrir des proies qu'ils pourront avaler. Chez les hommes, non, on n'écoute pas le veilleur, on n'écoute pas le poète, on n'écoute pas le prophète. Au contraire, on le condamne à la ciguë ou à la croix, ou à la prison ou à l'asile. Ça, là, il y a une vraie différence entre l'animal et l'homme. Mais ça veut dire quelque chose de très précis. Et c'est ça, je crois, la différence entre l'animal et l'homme. C'est que l'animal est... Il est conscient de ses limites. Il est lié à ses limites. En fin de compte, le singe ou l'éléphant qui emmène le troupeau, il va les emmener jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Il va les laisser jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Mais au fond, ils ne se rassasieront pas. Au-delà de leurs besoins, on ne voit pas d'animal sauvage mourir d'indigestion, c'est pas possible. Il s'est arrêté avant. Il s'est arrêté à sa limite. Alors que l'homme ne s'arrête pas à ses limites. Voilà la différence. L'homme dépasse ses limites. Tout le temps. Même s'il doit en mourir, même s'il en meurt. Il y a dans le Coran de Mahomet cette chose admirable. C'est Dieu cherche un complice, il cherche une aide, il cherche quelqu'un qui puisse le seconder dans sa tâche immense. Et puis il s'adresse aux montagnes, il s'adresse aux fleuves, il s'adresse aux animaux, il s'adresse aux arbres. Et tous refusent, ils disent non, on peut pas. Vous êtes bien gentil, Dieu, mais vraiment on n'est pas de taille. Puis on est bien comme on est. Et puis trouve l'homme qui est assez fou pour accepter. Et en fait, c'est cette folie de l'homme, ce dépassement de l'homme qui fait que Dieu choisit l'homme pour complice, pour être, pour être. Et ne le trouve nulle part ailleurs que chez l'homme, chez l'humain. Alors, ça aussi, c'est le jour où j'écrivais ces pages, j'ai lu le... Je le redisais, je le connaissais déjà, bien sûr, mais le livre s'est ouvert au double crime de Marie Roger, qui est une des premières histoires policières écrites. Pour tout prévu, il est le premier à avoir écrit des romans policiers, des romans fantastiques, des romans d'aventure. Et dans ce roman policier, où une fille à Paris, l'histoire se passe à Paris, bien qu'il ne serait jamais allé à Paris, une fille est tuée et on cherche... la police cherche désespérément, jusqu'à ce que le policier, parce qu'il a aussi inventé le premier policier, Garpeau, s'appelait Dupin. Dupin se met en marche et il va rapprocher tout ce qui a été écrit dans la presse ici et là. Il n'est même pas à Paris, hein, il le fait loin. Il va découvrir l'assassin. Et il le découvrira en se fondant sur l'exception. C'est-à-dire des choses que personne n'a remarqué, des choses un peu en dehors. D'habitude, elle va là, et puis ce jour-là, elle est allée, elle a pris un autre chemin. Pourquoi ? D'habitude, elle ne parle pas chez elle de ce qu'elle va faire, puis là, elle a parlé. Pourquoi ? Etc. Et il dit, à propos de ça, Garpeau dit, toute la police, tout le système policier serait reconsidéré en fonction de l'exception. C'est parce que le policier ne fait pas assez attention aux exceptions que tant de crimes ne sont pas découverts et tant de crimes restent impunis. Ça va très loin. Ça va très loin parce qu'on s'aperçoit que c'est tout le problème de la science, pas seulement de la police, mais de notre science. Qu'est-ce que l'évolution de la science, si vous l'étudiez depuis 2 ou 3 siècles ? C'est toujours la création d'un système qui est démenti par une exception. Insignifiante. La gravitation de Newton, c'était admirable, et puis Einstein a dit tout de même, c'est curieux qu'il y ait 2 masses. Tantôt on parle de masse pesante, tantôt on parle de masse inerte, mais pourquoi ça devrait coller autrement? Pourquoi est-ce qu'il y a cette petite erreur? Et puis à partir de là, il a changé tout le système, il a inventé dans le système de la relativité. Planck a inventé une constante, la constante de Planck, H, pour définir ou calculer à la fois la probabilité de position et les vitesses de mouvement d'une particule. Et puis Heisenberg est venu et a dit mais cette constante-là, c'est une constante d'indétermination. Tout ce que ça nous dit, c'est qu'il n'est pas possible de calculer à la fois l'un et l'autre. Et à partir de là, ça s'est ouvert à toute la physique qui ont suivi jusqu'à l'antimatière, la matière, etc. Les sciences évoluent parce que lorsqu'elles admettent l'exception, l'exception qui les dément, qui les dénature. Quand vous voyez un système philosophique, c'est la même chose. Ça tient le coup. C'est merveilleux, c'est beau, c'est équilibré, c'est symétrique. Puis un jour, il y a un petit quelque chose qui apparaît qui dit « Ah, ça ne satisfait pas, ça ne colle pas. Le système ne colle pas avec là, ce que je suis en train de vivre. » Et à partir de là, on est conduit à faire un autre système. Or, cette exception, qu'est-ce que c'est? C'est le dépassement de la limitation, tout simplement. C'est-à-dire que la religion, le système ont donné des limites. Pendant des siècles, les gens vivent bien. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui va au-delà de la limite et qui dit « Ah oui, mais il y a des exceptions. » Nous verrons jusqu'où on peut aller en parlant de ces exceptions. Je voudrais vous raconter un petit fait personnel. Alors là, il faut quitter Pau. Nous y reviendrons. J'étais un bon élève. Ça a été dur, parce que Le petit démon que j'étais, qui vivait parmi les dieux dans son paradis vert, plongé brusquement dans les écoles communales de Saint-Nazaire, dans cette vie, ce mouvement, ce limon, ces petites brutes, qui détestaient bien sûr tout ce qui était mythique. Moi, je croyais au Père Noël à 9 ans, alors c'est vous dire que j'étais plutôt black-boulé. Mais j'étais bon élève, parce que mon grand-père, ma femme avait déjà appris à écrire, à parler, à jouer aux échecs, à jouer aux piquets. J'étais très jeune, j'avais 5 ans quand je suis rentré en classe, j'avais 10 ans quand je suis rentré en 6e et j'avais 15 ans à la première année de mon bac. J'ai toujours été en avance, donc j'ai toujours été au milieu de gens plus forts, plus grands que moi, plus costauds. Mais enfin, malgré tout ça, j'étais un peu comme le sauvage, le barbare Rome, si vous voulez. Dans un monde policé, organisé, j'étais quelqu'un d'un peu brut, d'un peu naïf, d'un petit peu sauvage. Mais tout de même, c'était dur. C'était dur. Et il avait fallu à peu près que j'atteigne la fin de la septième, pour pouvoir dire que j'étais sauvé. Mes parents disaient que j'étais sauvé, que j'allais être un bon chrétien, un bon père, un bon époux et tout ce qu'on voulait. Et puis, il m'est arrivé une aventure étrange, qui a dû arriver à certains d'entre vous. L'injustice totale, d'autant plus importante à l'époque que le Dieu qu'on nous faisait adorer, c'était le Dieu de justice. Même le Jésus du catholicisme, c'était un Dieu judéo-chrétien, beaucoup plus près de la justice que de l'amour. Et au fond, on honorait que la justice, il fallait que les choses soient justes, il fallait que le bien soit récompensé, il fallait que le mal soit puni, etc. Je n'aimais pas beaucoup ce dieu. Moi, il n'avait rien à voir avec les géants, les fées, les sorcières, l'océan, le vent. Ben. Il n'avait pas cette grandeur. Mais bon, moi, je m'en contentais. Pourquoi pas, je croyais beaucoup, je vivais pour cette justice. Et à la fin de la septième, au mois de juin, au mois d'avril, il y avait eu une chose assez grave pour moi. C'est que le professeur était parti, l'instituteur était parti. Et il était devenu un type très bien, il étudiait les mathématiques, il enseignait les mathématiques dans un lycée, donc il avait bien fait de partir. Mais son agrégation ou ses diplômes nous obligeaient, nous, à avoir une institutrice là pendant 2 mois qui ne nous connaissait pas, qui n'était pas très... un peu perdu avec tous ces garçons, je vous dis, et qui, en plus, j'étais à ce moment-là dans un collège religieux, Saint-Louis, et il y avait les enfants de bonne famille, hein, du directeur des Nouvelles Galeries, et c'était ces enfants-là, qui étaient les chouchous de l'institutrice. Moi, j'avais que les culottes rapiécées, mais mes vues plus le vert, ce n'était pas très intéressant. Et puis, on n'avait pas confiance en moi. Il y a quelque chose d'étrange. On me disait toujours que je n'étais pas franc, alors que je n'avais jamais menti. Jamais. Et mes parents savaient que je n'avais jamais menti. Mais les gens disaient, vous avez cessé d'avoir regardé comme ça, parce que c'est le mot de l'instituteur, hein, si vous voulez. C'est fini de me fixer comme ça, oui. Ça ne m'aimait pas beaucoup. Enfin, au mois de juin, il y a un examen, dernier, la grande composition de fin d'année. Et ce matin-là, je me réveille avec une fièvre de chat. Ma mère me regardait, etc. Et j'ai dit non, c'est pas question. J'avais eu deux années de rang, j'avais eu le prix d'excellence. Il n'était pas question que je rate cette grande composition. Et on habitait loin du lycée. Ah, si j'aurais dû vous faire le plan Saint-Nazaire, parce que tout ça compte. Je suivais les voies droites, jamais les voies obliques, qui étaient la banlieue, qui étaient des choses suspectes, douteuses. Donc, la voie droite, c'était la voie régulière, ordonnée. Les... Alors, j'avais équipé un bon kilomètre et demi, oui, pour aller et revenir. Enfin, j'ai fait mon kilomètre et demi ce matin-là. Je suis arrivé en classe, je me suis assis à mon pupitre, à côté d'ailleurs d'un garçon que j'appellerais H, et qui était, avec qui je disputais souvent la première place. Et je fais ma composition, je fais la composition, mais je la fais vraiment à moitié endormi, tenant difficilement sur mon banc, j'avais 41 de fièvre. Et quand, enfin, je rends ma copie, je me dirige vers la porte, et on me laisse me diriger vers la porte, parce que l'institutrice ne croyait pas au malaise. Hein. Pour moi, j'étais capable de tout, pour elle. Donc, je me traîne jusqu'à la porte, et pof, je m'évanouis sur le seuil. On m'emmène à l'infirmerie, j'avais une angine. C'est rien, mais une angine soignée, comme je l'ai soignée ce matin-là, évidemment, c'était pas très normal. On me ramène à chez moi, et puis en fin de compte, ça se passe assez bien. Je reste 5-6 jours au lit, on me soigne durement, avec des remèdes solides. Et puis, je me retrouve donc 8 jours après, à peu près au collège, le jour où on rend les copies, les compositions. Alors, c'était toujours Pichon premier. Premier, c'était H, à côté de moi. Deuxième, X, Y, et tout, ça défile, et pas de Pichon. Je comprenais plus rien, parce que j'étais absolument sûr, malgré la fièvre, d'avoir fait un bon travail. Et puis, à la fin, elle dit, Pichon, zéro. Ça vous apprendra à copier sur votre voisin. Je vous ai vu, dans tout ça, vous avez, hein, comme ça, penché sur lui. Ah oui, vous étiez malade. Hein. Ah, la foudre qui me tombe sur la tête, la foudre absolue. Il n'y a rien à faire, comme ça. Il m'en est resté quelque chose. Je crois qu'il m'en est resté quelque chose. Je m'explique par là l'acte incroyable que je vais faire l'année suivante.